Charles Noyetas. Il a passé ses examens, il est conducteur de locomotive à vapeur. En 1961, l'opération de maintien de l'ordre en Algérie, comme on l'appelle, n'est pas terminée. Et il milite contre cette guerre qui ne veut pas dire son nom. Rencontre avec Charles Noyetas, cheminot, communiste et fier de l'être.
C'était terrible. Hein. On a fait faire. J'ai des copains qui ont fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé devoir faire, mais la guerre, c'est la chose la pire qui puisse arriver. Parce que dans la guerre, parce que c'était la guerre, il y a toujours un moment où on a un copain qui est blessé, qui est tué, et on a envie de le venger. Et les militaires sont très forts, je parle des militaires professionnels, sont très forts pour faire monter la mayonnaise. Et alors, vous rendez compte, ils ont tué, on va aller dans le village là-bas à côté, mais ils ont fait... C'est horrible la guerre. Mmh. Ça détruit les consciences, ça détruit les hommes, ça détruit l'humanité. C'est affreux. Mmh. C'est affreux. Faut pas de guerre. Il y a toujours une solution autre que la guerre pour régler les problèmes. À l'époque, il y avait beaucoup de racisme. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais alors à l'époque, vous savez, les bougnoules, les ratons, ça c'était dans le langage
quotidien, courant. Oui.
Oui. Mmh. Et ça, c'était affreux. Et quand on essayait de dire, mais non, c'est... tu t'as vu ce qu'ils ont fait à tel endroit, ils ont... Voilà.
Alors vous revenez, alors vous êtes donc vous revenez, vous rentrez chez vous,
oui,
à la fin de votre service. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, d'abord du dépôt de Sainte, on m'a dit comme on ne peut pas te reprendre à Sainte parce que c'était un dépôt qui était en voie de disparition avec la fin des locomotives à vapeur.
Ça s'est terminé quand ces locomotives à vapeur ? En quelle année ?
Moi, j'ai fait ça s'est terminé au début des années 70. Mais moi, j'ai été dessus jusqu'en 1967, sur les locomotives à vapeur. Et on m'a expédié au dépôt des Batignolles, à Paris. Et là, c'est le dépôt le plus célèbre des locomotives à vapeur. C'est là qu'a été tournée la bête humaine. Et c'est là que, il y a un passé là-dedans.
Alors, vous aviez des yeux émerveillés.
Ah, avec ces gens-là, oui. Là, je suis tombé avec... j'avais connu Machefer à Sainte, dont le frère avait mis un boche dans le poil, mais à Batignolles, là, c'était l'organisation, là. Attention, là, c'était pas des trucs individuels, hein, des réflexes individuels de résistance, c'était vraiment des gens organisés. Et j'ai croisé là-bas les gens, parce que la libération de Paris, vous voyez, l'anniversaire, c'était hier, le déclenchement de la grève insurrectionnelle à Paris. Elle est partie des cheminots, la grève insurrectionnelle à Paris. Et le dépôt des Batignolles était dans les premiers. Ils ont repris le dépôt, comme ils disaient à l'époque, les armes à la main, aux Boches, enfin aux Allemands. Je m'excusais, mais c'est les Allemands. Mais moi, je les revois tellement, ils parlaient comme ça. Et ils ont repris le dépôt, les armes à la main, et il y en a quatre qui sont morts en reprenant le dépôt. Et il y en a un que j'ai bien connu, qui lui a été pris aussi comme les quatre autres, mais lui n'avait pas d'armes, parce qu'ils n'en avaient pas assez pour armer tous les gens qui travaillaient dans le dépôt des Batignolles. Donc lui, n'ayant pas d'armes, Robert Lacheray, il s'appelle. Il a été interrogé. Et il est certain que le monsieur qui faisait le traducteur, c'était un malgré nous. Vous savez, ces Alsaciens qui avaient été recrutés de force dans l'armée allemande, et qui, parce que c'était la grève insurrectionnelle le 10 août 1944, le 25 ou le 26 août, il y avait la reddition de von Schultz à Paris. Hein. Les Allemands étaient chassés de Paris par les résistants. Et donc, lui, le malgré nous, alors est-ce qu'il est... Mais Robert Lacheray, celui dont je parle, qui s'attendait à être fusillé, hein, le pauvre, il s'était fait dessus, il se voyait mort, quoi. Eh bien, il est sûr que c'est le traducteur qui s'est arrangé pour raconter une histoire qui collait avec ce que les chefs des Allemands là, voulaient entendre. Et il n'a pas été fusillé. Mais et il ne l'a jamais retrouvé par la suite. Il a toujours essayé de savoir qui... Il ne l'a jamais retrouvé, Robert Lacheray. Et il est parti en retraite sans savoir toujours. Et chaque fois qu'il en parlait... Il avait les larmes aux yeux, parce qu'il avait tellement eu peur. C'était des gens, ça, qui avaient 20, 25 ans pendant la guerre, et qui sont partis en retraite, voilà.
Vous y pensez encore à tous ces gens ?
Ah. Moi, jusqu'à mon dernier train, j'ai conduit les trains les plus puissants de la SNCF en fin de carrière. Mais jusqu'à mon dernier train, je suis resté en bleu de travail. J'aurais pu mettre un costume avec comme les autres, parce qu'on avait des engins, vraiment, on appuyait sur des boutons, ça filait à toute vitesse et tout, mais j'ai jamais pu les abandonner. Parce que j'avais des copains qui disaient, quand on allait par exemple boire un coup dans un bistrot, les gens s'écartaient de nous, ben oui, on était dégueulasses, on avait du charbon, de l'huile, c'est normal, mais... Toujours, j'avais un copain qui disait « Regardez, messieurs, dames, moi, je suis sale dehors, mais je peux vous dire que je suis propre dedans. » Et ça, c'est... Et moi, je suis resté... Pas sale dehors, j'avais des bleus propres, mais je suis resté en bleu jusqu'à mon dernier train. Je suis resté en bleu.
Et ce dernier train, c'était...
C'était en 1989, à 50 ans. Donc, pendant plus de 20 ans après... Oh, oui, je sais plus, ouais, 25 ans après la fin des locomotives à vapeur, j'étais toujours... dans mon costume de mécanicien de locomotive. Alors,
on sent dans vos paroles qu'il y avait vraiment c'est plus qu'une entraide entre vous.
Ah, ça, je peux vous dire que c'était des gens... C'était des gens entiers, humains, qui étaient prêts à défendre toutes les bonnes causes. Le travail était très difficile, très très difficile, vraiment. Hein. Je suis encore là pour en parler, mais heureusement, parce qu'il ne doit plus y en avoir beaucoup, vous savez, des gens qui ont pu ces choses-là. Pourquoi moi je suis encore là, j'en sais rien, mais je suis là. C'était, en plus, ils étaient tous militants, voilà, à la CGT et au Parti communiste. Alors, d'abord, ils ont appris à militer beaucoup dans la clandestinité ou avec des clandestins. Parce que l'oppression, les nazis qui déportaient tous ces gens, tout ça, ça effrayait. Et eux n'étaient pas d'accord pour... En plus, ils avaient un métier qui se prêtait beaucoup à ils pouvaient transporter d'un point à un autre des documents, des armes, des choses comme ça.
Ils pouvaient faire plus facilement obstacle.
Donc,
aussi,
ils étaient probablement plus sollicités. Que d'autres pour être résistants. Ils avaient, puis le métier se prête à ça, hein, je vous assure. Et donc, c'était un militant, c'était des gens, des communistes. Et beaucoup ensuite, à la Libération, beaucoup de ceux-là sont allés dans les écoles pour apprendre le marxisme.
Au-delà de la lutte anti-nazie, évidemment, qu'on comprend très bien, après, à la Libération, il y a cette envie de restituer une justice sociale.
Oui.
Donc, vous parliez des heures de travail, de dire ça suffit, c'est assez, nous on a donné, et c'est là que s'est construit la sécurité sociale, etc.
Et bien, avec un ministre communiste, Ambroise Croizat, et eux avaient une admiration extraordinaire pour ce ministre. Ambroise Croizat, c'était le... Et le slogan du marxisme, hein, qui est « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins », mais ça, je l'entendais à longueur de journée avec mes camarades de travail. C'était leur doctrine, c'est tout, ça allait pas plus loin, mais c'était ça.
Alors donc, ils vous ont en quelque sorte enrôlé dans ce militantisme ? C'est venu comment, alors ?
Non, j'ai été enrôlé à Saintes, dès le départ.
Dès le départ. Alors
contre
pourquoi
la guerre d'Algérie.
Ah, c'est la guerre d'Algérie qui a déclenché vous.
Oui. Là, il y avait que les communistes qui se battaient contre.
Contre, d'accord.
Donc,
d'accord.
Là, c'était pas compliqué de savoir avec qui il fallait se mettre.
Donc là, c'est là que vous avez été militant pour la première fois.
Oui.
Alors ça s'est passé comment ? Vous faisiez des actions ? Qu'est-ce que vous faisiez ?
On a fondé un cercle de jeunesse communiste à Saintes avec mon copain Robert Loiseau. Et on publiait un petit journal. À Saintes, la ville est séparée. Il y a la Charente et il y a un pont qui relie les deux parties de la ville. Il y a un pont. Alors on se mettait chacun à un bout du pont Et là, on voyait passer tout le monde et on donnait nos tracts. Et c'est comme ça qu'on s'est fait embarquer plusieurs fois par les gendarmes et qu'on est allé à la sous-préfecture. Enfin bref, que j'ai été catalogué comme militant communiste et pacifiste avant d'aller au service militaire. Quoi. Voilà.
Alors contre l'OAS ?
À l'époque, l'OAS n'existait pas. Non.
Alors racontez-nous ça.
Alors l'OAS est venu en 60. Alors d'abord, avant l'OAS, il y a eu 62. Et là, les accords
d'Évian.
Et en 62, en février 62, il y a eu, je venais juste d'être démobilisé, il y a eu une grande manifestation à Paris. Et là, je suis allé manifester, bien sûr, en finissant mon service.
Vous parlez de Charonne ?
De Charonne, oui. Je suis allé manifester. Et là, je me suis fait matraquer. Mais alors, c'était une manifestation contre la guerre d'Algérie, contre les ratonnades à Paris, parce qu'en novembre, il y avait eu des centaines d'Algériens qui avaient été jetés dans la Seine. Et il y avait l'OAS qui plastiquait les maisons. Et donc, je suis allé manifester contre tout ça. Et là, habituellement, j'y allais. Il y avait beaucoup de manifs hein, à l'époque. Et celle-là, j'étais tout seul parce que je terminais mon service trop tard pour partir avec les copains de Batignolles. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Et là, j'ai été matraqué. Mais alors, j'avais à l'époque... Il y avait les Loden, je ne sais pas si vous savez, les manteaux, les par-dessus. Comme je revenais du service militaire, je m'étais acheté un beau Loden. C'était au mois de février, je l'avais sur les épaules. Et je courais pourtant vite, mais il y a un CRS qui m'a rattrapé. Et puis, il me tenait par le bout du Loden. Il me tapait un coup sur une épaule, un coup sur l'autre. Puis d'un seul coup, ah, ça m'a paralysé. Je me suis assis sur le trottoir. Et puis là, le Loden, alors c'était tout dégueulasse. Hein, le Loden était foutu après. Et quand il m'a vu là comme ça, il m'a laissé. Ça n'a pas été plus loin. J'avais des hématomes le lendemain sur les deux épaules, mais là, ça n'a pas été plus loin. Mais ils ont tué quand même 9 personnes ce jour-là. Mmh. Et 9 communistes. Hein. Et ça, et donc j'ai demandé à témoigner après. J'ai été proposé comme témoin. J'ai adhéré, je suis encore adhérent de la... Des survivants, enfin du 8 février 62. Et je suis cité par ceux qui voudraient qu'il y ait un procès comme témoin. Jamais il y a eu de procès. Et qui était à l'époque à la manœuvre ? Messieurs Frey, qui était ministre, et Papon. Papon, ah oui. Vous vous rendez compte, qui a été condamné après ? Il faisait déporter des Juifs, c'était un collabo.
Alors c'était Papon, l'ancien préfet de Bordeaux, voilà, oui. Qui a collaboré. Quoi,
oui,
voilà.
Tout à fait, bien il sûr. A collaboré. Et c'est lui qui commandait les CRS, qui nous ont tapé dessus, qui ont fait 9 morts. Il n'a jamais été jugé pour ça.
Et le général de Gaulle dans tout ça ?
Le général de Gaulle, lui, il avait une position très ambiguë. Hein. D'abord, il a été plastiqué par l'OAS. Il a été pas plastiqué, mitraillé par l'OAS.
Oui, dans la fameuse DS.
Ah voilà. Oui, il a été mitraillé par l'OAS parce que qu'il ait signé les accords d'Évian, ça c'était... Pour eux, l'Algérie, c'était à eux. Hein, donc,
l'extrême droite française de l'époque.
Hein. Ah oui, l'extrême droite française de l'époque. Ce qu'on voit aujourd'hui... Enfin, bref.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait, alors, de Gaulle, après ?
Eh ben, après, il a noyé, il n'a jamais fait de procès. Mm-hmm. Il a refusé, ça a été enterré. Mm-hmm. Son successeur, Pompidou, pas de procès. Mm-hmm. Mitterrand, qui était copain avec, il s'appelle, là, un Lyonnais, là. Qui avait torturé...
Oui, Bousquet, voilà. René Bousquet.
Oui, il n'a pas fait de procès non plus. Et je peux vous dire qu'on en a envoyé des lettres, parce que ça, je sais écrire. Hein, jamais, il a fait de... Jamais il y a eu de procès.
Donc c'est important
encore.
Aujourd'hui de rappeler ce que c'était Charonne, du coup. Hein,
voilà. Oui, des gens, des pacifistes qui manifestaient. Et deux, trois mois après, il y a eu les accords d'Évian, quand même. Mm-hmm. Ils ne sont pas morts pour rien, mais vous savez. Mm-hmm. Et moi, j'en ai vu deux étalés sur des tables de bistrot. Vous savez, les tables qu'il y avait à l'époque, c'était du marbre dessus qui était là. Et je ne savais pas s'ils étaient morts, mais ils avaient la tête. Il y avait du blanc et du rouge à la tête. Et quand je suis rentré à la maison, mon voisin qui était à la manif, lui aussi, m'a dit « Mais on t'a pas vu ?» Enfin, j'ai dit « Si, j'y étais, j'en reviens. » Je lui ai dit « Et mon Loden était foutu. » Ma femme m'a engueulé. Et je lui dis, mais il y a deux morts. Il me dit, mais non, mais tu déconnes. Et le lendemain, c'était pas deux qu'il y avait, c'était neuf. Neuf morts.
Charles Noyétas, cheminot, communiste et fier de l'être, un parcours exemplaire, nous le retrouverons dans la troisième partie en mai 68.